Говорит Москва.
Bonjour à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, si ce n'est que je suis un petit peu enchifronné, vous l'entendez, ma voix m'abandonne quelque peu, mais ouais, j'ai chopé un virus de gauche, mais c'est pas lui qui va gagner, c'est moi. N'en doutez pas. Je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui. Vous savez que je vous retrouve chaque mois, au 15 du mois, pour le balado de la réplique, et chaque fois que l'actualité l'exige, et ce dimanche, elle l'exige. Vous vous en doutez, nous allons parler de l'Iran. Je vous retrouve tout de suite. L'Iran, donc, oui, et cet accord qui se profile. Pour l'instant, côté iranien, on ne dit rien. Côté états-unien, puisque c'est un accord entre l'Iran et les États-Unis et rien d'autre, nous y reviendrons. Côté états-unien, on dit ah, quelque chose est en train de venir. On fait, comme ils appellent là-bas, le teasing. Ben, il faut vendre du papier, de la pub, etc. C'est le pays de l'argent. Par excellence, alors que côté iranien, ça serait plutôt, on aurait plutôt la prudence, ce serait plutôt le pays de la prudence. Et oui, parce que ça fait quand même, mine de rien, 47 ans qui tiennent le coup, alors qu'on a à peu près tout fait pour les faire s'écrouler et qu'on n'y est pas arrivé. Quand je dis on, ce sont bien sûr les États-Unis et une partie de l'Occident. Les mêmes qui les avaient mis en place, d'ailleurs, qui avaient mis ce régime en place. Enfin bon, ça c'est un autre détail. Alors, concrètement, que se passe-t-il? J'ai envie d'appeler ce podcast le double nœud coulant. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont fait ce qu'ils font avec les régimes qu'ils n'aiment pas, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place un système de sanctions. Et comme tous les systèmes de sanctions, évidemment, ça ne marche pas. Et en Iran particulièrement, ça fait des décennies que ça ne marche pas. C'est-à-dire que les sanctions ayant pour objectif un changement de régime ne fonctionnent pas. On l'a vu à Cuba, on l'a vu à peu près partout où il y a eu des sanctions. On l'a vu en Irak aussi, hein, parce que c'est pas les sanctions qui ont changé le régime en Irak, c'est une intervention militaire directe. Je suis pas sûr que les Irakiens aient beaucoup mieux d'ailleurs depuis. Mais enfin bon, c'est un détail et c'est surtout pas mon sujet. En revanche, ce qui se profile aujourd'hui nous apprend est intéressant parce que ce double nœud coulant, donc nous avons un nœud coulant qui a été passé autour du cou du régime iranien, qui a été serré de plus en plus fort, qui est très dur à supporter hein, pour les populations iraniennes. Ces sanctions sont, il ne faut pas croire, même en Russie, les sanctions sont quand même une souffrance pour la population. Alors à des degrés divers, hein, voilà, on crève pas de faim en Russie, en tout cas pas à Moscou, et d'ailleurs pas que je sache ailleurs. Je veux dire, tout est parfaitement approvisionné, etc. Il y a pas les problèmes d'approvisionnement qui existaient du temps de l'URSS, par exemple. Bref, je m'égare encore une fois et je digresse. Donc ces sanctions, ne sont pas exemples de conséquences et de souffrances pour les populations. ça popularise, entre guillemets ironique, les États-Unis dans le monde entier, mais c'est tout ce que ça fait, hein. Voilà, ça ne, en tout cas, ça n'aboutit pas, ça n'atteint pas les objectifs que ça s'était fixé. Et un exemple particulier est l'Iran qui subit depuis des décennies ces sanctions et qui tient, qui résiste. Quoi qu'on en pense, on a le droit de trouver ça bien, on a le droit de trouver ça pas bien, mais c'est comme ça. L'Iran résiste et l'Iran continuera de résister. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que le nœud coulant que l'Iran a fait passer autour du cou de l'oncle Sam, lui, par contre, a été extrêmement efficace et n'a duré que quelques semaines. C'est-à-dire que, d'abord, les États-Unis ne s'attendaient pas à, et Israël non plus, ne s'attendaient pas à une telle résistance militaire. Ils pensaient que, d'une manière générale, mais ça c'est pas, ce n'est pas que pour les États-Unis ou que pour Israël, d'une manière générale, les gens qui partent faire la guerre ailleurs croient que ça va être une promenade de santé, hein. Souvenez-vous. Les Français qui sont partis la fleur au fusil en 14 pensaient qu'ils seraient revenus à Noël 1914. Bon, on a vu le résultat. Ça, malheureusement, c'est voilà. Et surtout depuis qu'on envoie des conscrits, depuis la conscription, depuis qu'on envoie des conscrits à la guerre, eh bien, en général, on leur dit que non, non, ça va pas durer. Ne vous inquiétez pas, ça va être court. On est tellement les plus forts que, comme disait Jacques Brel, hein, ils sont 1000 contre 1000. À se croire les plus forts, mais à l'heure imbécile où ça fait 2000 morts, on se retrouve seul. Voilà. Par conséquent, j'aime beaucoup cette citation. Vous m'avez probablement déjà entendu et vous me réentendrez la prononcer. Alors, l'Iran a, de son côté, mis en place un nœud coulant autour des États-Unis, du cou de l'oncle Sam, qui lui, par contre, est très efficace. Et celui-là, il ne durera pas 30 ans, ou il ne durera pas 40 ans. Il dure depuis quelques semaines et c'est extrêmement dur. Alors, le nœud coulant, la corde se compose, outre le chanvre, elle se compose de quoi? Eh bien, elle se compose d'une part de la situation autour du détroit d'Ormuz, qui est fermée, qui déstabilise considérablement les marchés, l'approvisionnement, pas seulement en pétrole, hein, l'approvisionnement, parce que le pétrole, ça n'est que, enfin, c'est déjà beaucoup, mais ça n'est que 20% du pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz, mais il y a toute une, il y a des porte-containers, il y a toute une, il y a des matières premières, il y a des matières manufacturées, et plein de choses qui passent par le détroit d'Ormuz. Donc ça désorganise la navigation au niveau mondial. Or, comme l'Occident a beaucoup délocalisé, il a beaucoup besoin, qui délocalise a besoin de beaucoup de transport, hein, le problème, c'est que c'est très bien de faire de la Chine et du Bangladesh l'usine du monde. Mais le problème, c'est qu'après, eh bien, il faut transporter les produits. Et là, évidemment, eh ben, ça fragilise considérablement l'approvisionnement. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Et donc, les Iraniens ont donc agi sur le détroit d'Ormuz et ils ont aussi agi sur les pays du Golfe, en considérant que les pays du Golfe, ce qui est vrai, étaient des protectorats américains. Alors, ça fait des décennies que les monarchies du Golfe, en échange de l'exploitation des gisements de pétrole, vivent, c'est le cas de le dire, comme des nababs, grâce aux pétrodollars qui leur reviennent, c'est-à-dire aux miettes que leur distribuent les États-Unis, qui sont conséquentes, hein. Mais le problème, c'est que ça reste des protectorats. Et ces monarchies du Golfe pourraient réfléchir à l'avenir et se demander si l'allié américain est finalement un bon allié, parce que c'est les monarchies du Golfe, si elles sont attaquées, et elles sont attaquées, c'est quand même assez compliqué à défendre. C'est loin les États-Unis, alors ça a des avantages d'être loin, c'est qu'on est relativement protégé, mais quand on doit aller défendre ces protectorats, eh bien c'est plus compliqué. Et à l'avenir, les princes et rois et autres sultans et émirs et tout ce qui s'ensuit pourraient peut-être diversifier leurs alliances. Nous n'en sommes pas là. En attendant, le détroit d'Ormuz, plus la pression qui est mise sur les monarchies du Golfe, qui sont attaquées militairement, eh bien, ça constitue un nœud coulant qui, pour le coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, est extrêmement efficace et est en train de bien de faire entendre raison aux États-Unis. Finalement, ces sanctions-là, bah, elles marchent. Alors, il ne faut pas se réjouir trop tôt. Quand je dis se réjouir, nous, bien évidemment, au balado de la réplique, on compte pas les points. On n'est pas là pour. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. La guerre, c'est terrible et il faut que ça s'arrête. C'est tout. Et c'est tout ce qu'on souhaite. Et donc là, eh bien, il semble que et c'est là que c'est très intéressant, les Iraniens aient d'ores et déjà obtenu, premièrement, une promesse de paix, un accord de paix, un accord cadre, en réalité, sans finalement toucher, sans aborder les questions de fond. D'accord? Pour l'instant, on ne parle pas du volet nucléaire, on ne parle pas du volet des missiles balistiques, on ne parle pas de tout ça. Et de toute façon, les Iraniens ont l'intention de ne pas en parler, puisque les Iraniens n'ont pas l'intention de négocier sur ces sujets. Pourquoi? Eh bien parce qu'il existe un accord nucléaire qui a été validé par le Conseil de sécurité. Les États-Unis ont indiqué que ça ne leur convenait pas, mais ça ne suffit pas. Les Iraniens, eux, se sont engagés à respecter cet accord, sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et pour ce qui est des missiles balistiques, eh bien, les Iraniens, ou plus exactement les Américains, viennent de prouver que les Iraniens avaient, le cas échéant, besoin de se défendre. Et on ne peut pas demander à quelqu'un de se mettre tout nu et de prêter le flanc aux éventuels coups de boutoir de l'adversaire. Donc oui, il y a un programme balistique en Iran et les Américains et les Israéliens viennent de leur donner une preuve absolument magnifique du fait qu'il ne fallait surtout pas qu'ils l'abandonnent parce que sinon ils seraient sans défense. C'est exactement ce qu'a fait Saddam Hussein. Il s'est retrouvé sans défense et le jour où il a été sans défense, eh bien, il s'est retrouvé. Bah finalement, il s'est balancé au bout d'une corde. C'est comme ça que ça a fini. Donc, les Iraniens, qui sont des gens extrêmement intelligents, ont appris. Et donc, ces deux sujets, de toute façon, ne sont pas négociables. Et aujourd'hui, les États-Unis sont prêts à mettre en veilleuse leurs intentions bellicistes en échange de la réouverture graduelle du détroit d'Ormuz en échange d'une paix dans le Golfe, c'est-à-dire que les Iraniens, bien sûr, s'engagent à laisser les monarchies du Golfe tranquilles. Sauf que, on doit rappeler quand même que ce ne sont pas les Iraniens qui ont commencé. Ce sont les Américains qui ont frappé les premiers. Donc aujourd'hui, les Américains doivent s'arrêter de frapper et tout va rentrer finalement dans l'ordre. Et pour les autres négociations, on verra plus tard, mais il est bien clair que les Iraniens négocient en position de force, puisque pour l'instant, les Américains n'ont rien obtenu. C'est-à-dire que la seule chose qu'ils ont obtenue, c'est enfin qu'ils auraient obtenu, parce qu'il faut parler au conditionnel, hein, la seule chose qu'ils auraient obtenu, c'est une sorte de retour plus ou moins à la situation qu'ils ont eux-mêmes détériorée en frappant l'Iran. Voilà. Donc, en tout cas, cette première manche, qui, on l'espère, est en train de se terminer, eh bien, a été remportée par chaos par les Iraniens. Je ne dis pas qu'il faut s'en réjouir. Je dis simplement que, d'abord, il faut l'observer. On peut le commenter. Mais les États-Unis, on me parle beaucoup de Pax Americana, un peu à l'instar de la Pax Romana de l'Antiquité. Moi, je vois pas beaucoup de paix, là, en l'occurrence. Je vois surtout que les États-Unis sont un facteur de déstabilisation dans le monde entier et que tout ça, bien entendu, doit cesser. L'affaire est importante, il faudra la suivre. Marco Rubio a dit qu'une bonne nouvelle était à annoncer d'un moment à l'autre. Il est intéressant de savoir pour qui elle est, cette bonne nouvelle. Est-ce qu'elle est pour les Américains ou est-ce qu'elle est pour les Iraniens? En tout cas, bien sûr, les Américains aujourd'hui prennent le mordant en matière de communication. Ça prouve qu'ils n'ont plus que ça. Et c'est très certainement une énième preuve de décadence. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je m'excuse, ou plutôt excusez-moi pour ma voix de soufflé de forge. J'espère que je reviendrai pour le podcast du mois de juin avec une meilleure voix. En attendant, je vous demande de faire connaître ce travail. Vous savez que la Macronie, le Bruxelles, tout ça, ces gens n'aimeraient pas que vous fassiez connaître ça. Alors si vous ne le faites pas connaître, c'est que vous avez le souci, bon, c'est votre droit, hein, c'est que vous avez le souci de plaire à Bruxelles et à Macron. C'est votre droit. Mais si vous voulez, eh bien, m'accompagner dans ce mouvement de résistance, bien insignifiant, je vous l'accorde, mais c'est avec les petits ruisseaux qu'on fait de grandes rivières, et votre serviteur ne peut apporter que ce qu'il a, eh bien, je vous demande en tout cas de faire connaître à vos amis, à vos réseaux, ce travail et en particulier ce podcast d'actualité. Je vous remercie, vous dis à bientôt. Salut! Thank you.